Tout feu, tout femme, le magazine des femmes, mais pas que, sur Couleur FM 97.1 avec Véronique et Valérie. Bonjour, aujourd'hui émission spéciale Journée internationale de la femme qui aura lieu le 8 mars 2016. Avec nous pour parler de cet événement, nous recevons Christelle Thibault, photographe, et Elena Melody, qui est chanteuse, auteure, compositrice, allez on va le dire, et qui nous fera le plaisir de nous présenter quelques-uns de ses morceaux. Donc à l'occasion de la Journée de la femme, nous avons invité ces deux artistes qui sont mère et fille pour discuter entre nanas de la situation de la femme dans le monde artistique ainsi que du parcours de chacune d'entre elles. Et je vais laisser la parole à Valérie qui va nous faire un portrait de ces deux jeunes femmes. Alors l'émission sera en deux parties. Première partie, justement, on va les présenter. Et deuxième partie, on parlera des droits de la femme à l'occasion de la Journée internationale de la femme.
Voilà, bonjour chers auditeurs. Et puis nous parlerons aussi au féminin. De préférence, au niveau des métiers. Donc on va faire le portrait de Christelle, qui est la maman dans, ce duo. Christelle, vous êtes née en 1963 près de Lyon et vous avez suivi des études de sciences politiques parallèlement à des études de lettres modernes et d'infocom. Vous avez aussi joué du piano dans plusieurs formations lyonnaises des années 80, dont deux groupes de rock féminin, aux côtés de votre sœur, la batteuse Babé. Mais aussi, vous avez été journaliste à Antenne 2 à Paris, puis en région Rhône-Alpes, et vous collaborez à Vivre à Lyon, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, Isère Magazine et d'autres, je suppose, dans lesquels, là, vous tenez, entre autres, une chronique culturelle. Vous avez aussi écrit pour le théâtre, ai-je appris. Dans les années 90, vous débutez la photo en autodidacte pour accompagner vos reportages en presse. Vous créez en 2011 l'agence de presse Un œil à l'écoute et vous devenez photographe officiel du Caval Air Jazz dans le Var, pour les éditions 2010 et 2011. Vous nous expliquerez un petit peu tout à l'heure votre parcours plus précisément. Et vous faites plusieurs expositions aussi, des expositions photos qui sont elles consacrées au jazz en live à la Maison de la Mer en mars 2015 à l'espace contemporain H2M. Vous créez une exposition jazz au féminin que nous sommes allés voir avec Véronique, qui était vraiment très sympa, avec des photos et des textes biographiques. Vous mettez en lumière 45 femmes de jazz en faisant un éventail du passé à nos jours. Cette exposition est partie en tournée en 2015 et vous avez notamment exposé à Seynot près d'Annecy. Alors bien sûr, ce n'est qu'un petit résumé, mais néanmoins, cela donne une idée de la femme que vous pouvez être et que l'on va découvrir au fil de cette émission. Un petit portrait maintenant d'Elena Mélodie. Hein, alors, Elena, vous êtes aussi compositrice, pianiste et interprète.
C'est ça.
Vous êtes seule sur scène au piano et votre style est, dit-on, le rock féminin aux influences jazzy. Alors, on se demande ce que c'est aussi un petit peu un rock féminin aux influences jazzy. On développera aussi tout à l'heure et on dit de votre musique que c'est une cascade de notes bien trempées qui s'épanche en un ruissellement d'arpèges avec des sons électriques qui puise dans des humeurs rock, blues, affranchis de toute contrainte de genre. Votre influence musicale, elle est celle des anciennes icônes du jazz, alors excusez-moi du peu, mais Betty Everett, Peggy Lee, Julie London, et les plus récentes telles Gretchen Parlato, Nora Jones et Fiona Apple. C'est tout. Votre voix est fragile, vibrante et sensible, dans un style mélancolique.
Alors voilà le portrait dressé par Valérie au vu de vos biographies. Alors tout d'abord, Christelle, est-ce que vous auriez des choses à rajouter à ce portrait ? On vous connaît depuis de nombreuses années, alors en tant que journaliste dans divers magazines. Là, vous avez décidé effectivement de changer un petit peu de voix en vous mettant entre guillemets à votre compte. Alors déjà, est-ce que c'est pas un petit peu compliqué quand on est une femme d'être journaliste, puis ensuite photographe dans des grands événements tels que sont par exemple Jazz à Vienne ?
Oui, effectivement, c'est un milieu plutôt masculin, la photographie, même s'il est ouvert aux femmes depuis toujours. Faut avouer que sur les 70-80 photographes accrédités, par exemple à Jazz à Vienne, nous sommes 8 ou 10 femmes. Je me suis posé la question à savoir pourquoi si peu de femmes. Bon, je pense que c'est peut-être le fait que ça soit le soir, Le soir, ce qui dit que si on est mère de famille, eh ben, on va plutôt rester à la maison derrière la popote et s'occuper des enfants. Donc il y a très peu de jeunes mères de famille. C'est souvent des célibataires ou des femmes d'un certain âge. Donc ça, c'est une constatation sur le terrain. Après, vous me disiez, Véronique, que vous vouliez savoir quoi en particulier ?
Alors, quand on fait ce genre de parcours, vous êtes passée du parcours de journaliste où là, vous écriviez pour la presse écrite,
oui,
à passer à la photographie. Pourquoi le choix de changement de carrière, entre
guillemets ? En fait, c'est pas vraiment un changement de carrière. C'est que je travaillais en presse écrite, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je me suis aperçue sur le terrain, très rapidement, qu'il était de plus en plus difficile de se dépêcher sur des reportages à deux. Donc on nous a, au fil du temps, obligés à faire nos propres photos. Et j'ai démarré la photo comme ça. Donc notamment au Progrès, où on devait tellement attendre pour avoir un photographe qui nous accompagnait, que forcément, ensuite, on s'est formé à la photo et sur le terrain, on s'est mis à aussi bien recueillir la parole que l'image. Et je me suis aperçue assez rapidement qu'il y avait une force incroyable dans l'image et que ça pouvait vraiment rajouter au contenu de l'écrit. Par exemple, je me suis aperçue au fil du temps qu'un reportage en presse écrite durait à peu près trois quarts d'heure, une heure lors d'une interview, et que les gens n'étaient pas forcément très très à l'aise quand il y avait un photographe. Du moment qu'il n'y avait pas le photographe, c'était beaucoup plus facile de recueillir la parole. Et après seulement, quand on avait recueilli la parole, je m'autorisais à leur demander de faire les photos. Et comme on avait eu un moment assez intime d'échange pendant une heure,
mise en confiance.
Les personnes étaient en confiance. Et c'était beaucoup plus facile de faire un portrait qui allait coller avec le reportage.
Ah, moi, je voulais juste revenir par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure, qui m'interpelle. Les artistes ou les entre autres les photographes, on a bien vu que le ratio était au minima les femmes et les hommes dans ce métier. Ceci étant, vous parliez des femmes qui restaient à leur popote le soir, etc. Est-ce que vous pensez que les femmes continuent à s'empêcher de travailler parce qu'elles ont leurs enfants et que du coup, effectivement, elles n'essayent pas de sortir de ce créneau où elles sont cantonnées à être femmes, à éduquer leurs enfants et faire la popote le soir, et qu'elles n'arrivent pas à sortir de ce schéma-là. Est-ce que pour vous, c'est flagrant ou est-ce que ça se développe ou est-ce qu'elles arrivent maintenant à sortir de ce schéma ?
Alors,
parce que c'est un vrai frein.
Oui, moi, je trouve que, bon, par exemple, sur les scènes de musique actuelle, dans les concerts de musique actuelle, il y a très peu. C'est un milieu très masculin, le milieu du jazz, du rock et même de la musique classique, ça reste quand même un milieu très masculin. Aussi bien ceux qui sont sur la scène, donc ça soit les instrumentistes, le chef d'orchestre, aussi bien derrière la scène, la production, les programmateurs sont souvent des hommes, il y a très peu de femmes. Et après, du côté des médias, on va retrouver le même problème. Et pourquoi ? Parce que c'est des métiers de nuit. C'est des métiers de nuit, et les métiers de nuit, je suis désolée, il reste une connotation, est-ce que la femme va être disponible ?
Donc ça veut dire que la femme doit faire un choix entre sa carrière et sa vie de famille. Voilà, c'était à ça que je voulais.
Alors moi, je m'interrogerais aussi en disant, est-ce que c'est les femmes qui s'autocensurent, ou est-ce que c'est les hommes qui ne laissent pas de place aux femmes dans ces métiers-là ?
Alors bon, je pense que ça, c'est par rapport à chaque individu. Alors, les femmes peuvent s'auto-censurer, mais après, dans la pratique, moi, par exemple, mon conjoint m'a toujours énormément aidée. J'ai des enfants et on s'était vraiment mis d'accord là-dessus, ce qui m'empêchait pas du tout de travailler le soir. Il prenait le relais. Mais je pense que c'est une question vraiment particulière personnelle, voilà.
Et c'est d'éducation, pas, peut-être.
D'éducation. Et c'est pas donné à la portée de toutes les femmes. Ouais.
Ça veut dire qu'il faut aller contre la société, contre les dictats de la société, voilà. Ce qui n'est pas toujours
Ensuite,
gagné.
Ensuite, si une femme élève seule ses enfants, comme une femme sur deux maintenant, qui dit travailler le soir, dit il va falloir trouver quelqu'un pour garder les enfants.
Et d'où voilà. Un budget, d'où un budget. Le budget mensuel.
Donc souvent, le travail de nuit, on pense au milieu hospitalier. Mais il y a tout le milieu culturel qui est impacté aussi. Toutes les jeunes femmes qui travaillent dans le milieu culturel sont impactées par ce problème-là, oui.
Alors, vous étiez donc au départ, journaliste de presse écrite. Suite à votre expérience de photo, vous avez décidé de partir dans la photo. Alors là, c'est pareil, un nouveau regard. Moi, j'aime bien le nom de votre structure, un œil à l'écoute, c'est tout à fait ça. Est-ce que le regard change, effectivement, quand on est passé de l'écriture à l'œil du photographe, on est derrière son appareil photo. Alors effectivement, il y a ce côté où on rentre un peu dans l'intimité des gens. Des fois, certains vous repoussent, mais c'est aussi une autre façon de voir les choses avec un appareil photo. Et de justement, vous avez après fait vos différentes expositions.
Il y a deux sortes de photos. Donc, il y a toute une série de photos que j'avais appelées Gueule d'Isère, où je faisais des portraits d'Isérois de 20 à 80 ans sur leur lieu de travail. Et donc là, il y avait vraiment donc cette rencontre qui se faisait avant de faire le portrait photographique de la personne. Donc là, c'est une rencontre humaine. Donc on sait où on va plus ou moins, comment on va orienter le portrait. On sait ce qu'on attend par rapport à ce qu'on a vécu avec la personne dans l'heure ou la demi-journée avec laquelle on a vécu. Quand on fait de la photo de scène comme là je fais actuellement, c'est différent parce qu'on va faire de la photo en live dans des conditions très difficiles parce que parfois on va avoir trois morceaux l'autorisation accréditée pour trois morceaux seulement. Après, vous êtes expulsé. Quand c'est en extérieur, comme Jazz à Vienne, on a toutes les conditions. De l'extérieur, s'il pleut, on est obligé de s'en rubaner de sacs en plastique et on a très peur pour son matériel. Quand c'est une star... on se précipite, on est 70, 80 à se précipiter pour essayer de faire 3 minutes voilà. Donc là, c'est toutes des conditions extrêmement difficiles. Et là, c'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux prendre, qu'est-ce que je veux retenir dans cette image, qu'est-ce que j'attends. Bon, alors, comme vous disiez, mon agence, c'est un œil à l'écoute. Donc, Souvent, je suis plutôt en retrait de ce chahut et je suis déjà dans le concert, j'écoute, je connais plus ou moins bien l'artiste au niveau de sa discographie, etc., ou pour l'avoir déjà vu en concert. Et je pressens le moment où il va falloir que j'enclenche et que je fasse des photos. Donc, j'ai horreur de mitrailler parce qu'il y en a certains, c'est vraiment ils mitraillent. Donc évidemment, quand on va faire 150-300 photos, forcément il y en a une ou deux qui vont être pas mal, mais bon, donc c'est plutôt je vais chercher dans le visage de l'artiste c'est vraiment une sensibilité, c'est difficile à exprimer avec des mots.
Un portrait psychologique.
Psychologique, pas forcément.
Au contraire,
émotionnel.
Chercher à c'est sortir émotionnel. Ce qu'on ne voit pas de lui.
Voilà. Donc, pour certains, par exemple, ça va être un moment. Souvent, c'est juste avant le rappel. L'artiste ou la chanteuse ou l'instrumentiste, elle a un certain. Repli en elle-même parce qu'elle a déjà fait les trois quarts du concert et qu'il y a une partie qu'elle a énormément exprimée, donc on sent un épuisement mais à la fois
un contentement
heureux. Voilà, il y a une aura, il y a quelque chose qui se passe Et sur le visage, souvent, d'un coup, les traits se détendent. Les yeux sont perdus un peu dans le vague. Il y a un côté mystique qui me plaît beaucoup. Donc, il y a beaucoup dans mes photos de femmes, notamment de musiciennes, on retrouve beaucoup cet angle-là, ce regard-là. Et puis, il y a un autre côté, c'est toute l'énergie jubilatoire que certaines artistes ont sur scène, notamment la pianiste Hiromi japonaise, qui m'impressionne à chaque fois, où là, vraiment, c'est le bonheur de jouer. Et elle est dans l'exaltation et elle ne tient pas en place. Et là, vraiment, on a ce sourire et les yeux rieurs. Il y a une énergie brute qui est magnifique.
Et bien justement, la transition est toute faite puisqu'on va écouter Hiromi, le titre « Delusion ».
Thank you.
C'était Hiromi, le titre d'Illusion, extrait de son album Voice de 2011. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Tout Feu, Tout Femme. Je suis en compagnie de Valérie, de Christelle Thibault et d'Elena Mélodie. Alors Elena Mélodie, compositrice, pianiste, interprète, que je laisse aux mains de Valérie.
Alors là, ça va être terrible, Elena. Bonjour Elena.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir sur Couleur FM. Vous jouez donc du piano, c'est ça? Uniquement du piano?
Alors oui. En fait, je fais du synthétiseur, enfin du piano, du clavier. Ouais. Donc, des fois électrique, des fois plutôt acoustique. Voilà.
D'accord. On dit de vous que vous êtes fragile, vibrante, sensible, dans un style mélancolique. C'est un état d'âme ou...
Alors oui, oui, c'est un état d'âme. Après, c'est aussi peut-être là que je puise toute mon inspiration. J'aime beaucoup, en fait, je fais des études de littérature, donc j'aime beaucoup assimiler ma musique à un esprit assez littéraire. Mmh. Et donc je puise mes inspirations, oui, dans la littérature plus mélancolique, dans les...
Par exemple ?
Alors oui, alors moi je suis une grande fan de la littérature de l'Europe de l'Est, et puis surtout de la poésie de Reverdy. Qui est pour moi l'un des meilleurs poètes qu'on ait fait en France, mais et voilà, enfin j'essaye beaucoup de rendre ma musique plus littéraire que musicale, enfin je voilà.
Et littérature de l'Est, pourquoi?
Alors littérature de l'Est, je sais pas, je pense que c'est peut-être ancré depuis longtemps en moi, je sais pas, peut-être une vie antérieure, qui sait, peut-être que j'étais une Russe avant, je sais pas. Mais oui, j'adore parce que, oui, ces airs glaciales, l'imaginaire que je me fais de ce pays. Et puis oui, c'est par exemple Dostoïevski, qui est un auteur qui m'a beaucoup inspirée et qui... Oui, qui recèle en lui tellement de tourments qu'il arrive à exprimer en très très peu de mots et avec une fougasse impressionnante. Et c'est vrai que c'est très inspirant.
C'est vrai que ça, mélangé à la mélancolie et au sentiment, ça doit jeter sur le clavier un certain émoi.
On essaye.
Votre parcours, parlez-nous un petit peu de ce parcours. Vous êtes jeune encore, vous avez quel âge?
J'ai 22 ans.
22 ans, c'est tout jeune. Vous avez commencé à quel âge? Comment ça s'est passé pour vous l'entrée dans ce métier?
Alors en fait, chez moi, j'avais toujours eu un piano. Et j'ai su que par très tard que ma mère en fait avait fait du piano et je m'étais pas posé la question quand j'étais enfant. Et donc à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à faire du piano et j'ai pris des cours avec une professeure, une petite professeure à Vienne, voilà, privée comme ça. J'ai jamais voulu faire l'école de musique ou le conservatoire parce que j'avais déjà le pressentiment après, plus tard en étant adolescente, etc., que j'allais forcément me fermer peut-être à un souffle de création ou d'inspiration. Et du coup, j'ai après continué, voilà, j'ai pris des cours pendant peut-être 12 ans avec cette professeure, et puis j'ai appris ensuite en autodidacte. Mais dès l'âge de 11 ans, j'ai commencé à composer mes propres petits morceaux, des berceuses, des comptines, des choses comme ça. Et au collège, je composais pour des courts-métrages. Voilà. Et puis après, j'ai commencé à faire des concerts et à me produire un peu. Enfin, j'avais une soif de me faire entendre, je sais pas.
Parce que quand on a un parcours atypique comme ça et qu'on se jette tout de suite dans les concerts, etc., sans même être passé par la voie conservatoire, etc., ouais, sur ce type d'instrument, c'est pas aisé quand même.
Hein. Non, c'est pas évident, hein, c'est pas évident.
On a toujours ce côté, quand on est dans le milieu, hein, on se rend compte que quand on n'est pas passé par la voie classique,
c'est très très difficile.
C'est gênant et c'est dérangeant.
C'est très difficile. Après, je suis persuadée que ça aussi... c'est pour ça que je prône le fait que ouais, je suis quand même autodidacte, parce que je pense que ça a quand même un poids au niveau de la créativité. Non pas que forcément ceux qui viennent du conservatoire ne sortent pas des carcans, mais je pense qu'effectivement... Ça peut être une richesse au niveau intuitif avec l'instrument.
Vous avez une liberté d'expression que eux n'ont peut-être pas.
Peut-être, peut-être. Et en tout cas, c'est peut-être plus facile de s'exprimer et de s'autoriser à faire des erreurs, de s'autoriser à tâter le clavier et à partir dans des élans qui peut-être, effectivement, si on l'écrivait sur une partition, ça ne rendrait absolument rien, mais qui sont une liberté, voilà, un élan. Enfin, il faut savoir aussi se donner ces libertés-là.
Et dans votre parcours, est-ce que vous avez eu l'impression que, comme Christelle nous le disait tout à l'heure, parce que vous étiez une femme, vous avez eu des difficultés à rentrer dans ce milieu, vous avez des difficultés à pouvoir faire des concerts, avoir des portes ouvertes?
Ah oui, ça j'en suis persuadée. Donc j'ai commencé en fait à me produire sur scène vers l'âge de 14-15 ans. J'avais commencé avec, en faisant la fête de la musique comme ça, puis quelqu'un m'avait dit bah, « Viens, il y a un petit créneau sur la scène du Temple à Vienne, donc viens jouer, voilà. » Et puis après j'avais enregistré quelques morceaux et on m'avait proposé de faire des concerts comme ça. Bon, là j'ai pas eu forcément de problème parce que voilà, c'était l'association de musique actuelle, la Locomusique, tout ça, enfin je les connaissais bien, ils m'ont bien aidé à me produire comme ça sur scène. En revanche, c'est aujourd'hui que j'ai plus de soucis, maintenant que je suis une jeune femme, que voilà, à partir de mes 18 ans, là, j'ai eu plus de problèmes.
Quel type de problème ?
Déjà, je dirais que faire sa propre publicité, quand on n'est pas... Enfin, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des femmes, des photographes, etc., qui osaient peut-être pas et qui s'auto-censuraient. Je regarde autour de moi les garçons qui font de la musique. Ils osent, hein, pour faire leur publicité. Ils n'ont pas forcément de groupe ou de morceaux accomplis, mais ils vont faire leur pub et ils vont quand même se lancer dans le bain, etc. Moi, en étant seule et en étant femme, j'ai l'impression que j'ai plus de difficultés à me faire entendre, à ce qu'on me prenne peut-être au sérieux aussi. Et puis, peut-être aussi... comme je viens pas forcément d'un milieu de communication, enfin je connais pas tout ce milieu-là, et comme je viens pas de conservatoire, pour faire ma publicité c'est plus difficile.
Moins de portes ouvertes, moins de contacts,
mais oui,
moins de, comme on appelle, le carnet actif
des
artistes.
C'est ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Et pourtant il y en a qui sont pas forcément, enfin qui voilà, qui ont pas forcément de projet détaillé et qui vont réussir parce qu'ils auront derrière le carnet d'adresses, ils auront cette espèce d'ambition et peut-être aussi un peu d'orgueil quand même.
Et puis la rencontre de la bonne personne au bon moment,
ouais,
parce qu'elle est
fait.
Dans notre carnet, dans
tout
notre entourage aussi.
Tout à fait. Et là, c'est un petit peu plus difficile. Et j'ai eu aussi l'expérience, l'année dernière, j'étais à l'École nationale de musique de Villeurbanne, en composition électroacoustique, parce que c'est justement pour la... je m'intéresse beaucoup à la possibilité d'une littérature dans la musique, comme je l'expliquais, que la musique peut être plus littéraire que musicale, et donc je m'étais tournée vers la musique électroacoustique qui répondait, selon moi, à certains ces questions-là. Et comme c'est un département très technique, informatique, physique aussi, sur une classe de 30, on était 3 filles.
Et c'est marrant les ratios, hein, depuis tout à l'heure.
C'est amusant quand même, parce que je trouve que c'est quand même assez significatif. Donc moi, ça m'a perturbée, donc j'ai fait mes recherches. Et effectivement, la place de la femme dans le milieu électroacoustique est minime, mais minime. C'est-à-dire qu'on parle de John Cage, on parle de l'école de Vienne avec Stockhausen et les grands noms voilà, qui ont hérité de... Voilà. Mais en revanche, la femme, on n'en parle pas. Alors que, bon, je tiens à cette anecdote, alors que la première programmatrice informatique, avant même que les machines existent, c'était juste des machines artisanales, c'était au 19e siècle, c'était la fille de Lord Byron, Ada Lovelace, qui a tout créé et qui a été la précurseur de, finalement, les mouvements suite. Et ça, on l'a oublié. C'est-à-dire que, heureusement, aujourd'hui, il y a un groupe de femmes artistes dans la musique électroacoustique, électronique, qui s'appelle ADA, en hommage à cette femme,
revendique.
Et qui essaye de revendiquer, mais on ne les entend presque pas. Et on n'en a pas entendu parler à l'UNM. Donc, après, je m'avance peut-être, mais je pense quand même que il n'y a pas énormément de résonance de tout ça. Et effectivement, voilà, le milieu informatique, physique, technologique, pour les femmes, est très fermé. Et tout de suite, on ne nous prend pas au sérieux. Voilà, donc on doit mettre les bouchées doubles pour prouver notre place et montrer qu'effectivement, on est légitime à être ici et c'est difficile, c'est très difficile.
Donc il y a du chemin à faire. Et moi, je me pose une grave question au sujet de votre époux et père. Hein. Deux femmes artistes à la maison, ça doit quand même pas être facile à gérer quand même.
Ça
va, il s'en sort bien.
Lui, il est plutôt cool, alors.
J'ai fait un petit clin d'œil quand même, parce qu'on est sur la journée de la femme, mais quand même, on a un clin d'œil à ces messieurs qui, malgré tout, pour certains, jouent le jeu.
Ah bah oui, ah bah
c'est important de le dire aussi.
Ah oui, oui, non, c'est important de le dire, c'est important.
Alors on va faire une deuxième pause musicale. Cette fois-ci, vous avez choisi, parce que alors les choix musicaux ont été faits par Christelle et Elena, vous avez choisi Gretchen Parlato. Alors pourquoi ce choix?
Alors Gretchen Parlato, je l'apprécie beaucoup parce que déjà c'est une grande chanteuse à mon goût, à mon sens, chanteuse de jazz avec des élans un peu hispaniques comme ça de musique latine. Et elle a été l'une des premières, alors si je ne m'abuse, à avoir remporté le prix Thelonious Monk dans les années 2000. Première femme à le remporter. Et j'aime particulièrement cette chanson parce qu'elle est sur un album Lost and Found qui a été produit par Robert Glasper, qui est un pianiste, bon, homme, comme le nom l'indique, mais qui est, voilà, que j'aime particulièrement. Voilà.
Alors, on écoute Enya. C'était Gretchen Parlato. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre magazine Tout Feu, Tout Femme. Et nous sommes en compagnie de Christelle Thibault, Elena Mélodie et avec moi pour m'accompagner Valérie. Alors, je voulais revenir sur le parcours de Christelle Thibault. Vous avez actuellement une exposition en cours qui s'appelle Jazz au féminin, que nous aurons le plaisir de pouvoir voir à Fézin du 5 au 26 mars. Dans le cadre de l'événement des femmes et des arts. Alors, vous avez commencé à exposer cette exposition loin d'ici, puisque c'était à Cavalaire. Alors, nul n'est prophète en son pays. Ou est-ce que, comment ça se fait que quelqu'un comme vous, qui êtes quand même réputé, connu en tant que photographe à Jazz à Vienne, sur Vienne, vous soyez obligé d'aller vous expatrier dans le sud?
Reconnu, je ne sais pas, c'est gentil. Je pense que c'est par pudeur, tout simplement. C'est pas facile toujours de montrer son travail. Et la concurrence sur la région Rhône-Alpes entre photographes, notamment dans le jazz, est rude. Il faut l'avouer. Donc c'est plutôt par pudeur. J'ai eu l'occasion de travailler pour le Cavalaire Jazz Festival qui débutait juste. Et c'était une bonne opportunité parce qu'un petit festival, c'est beaucoup plus convivial et plus facile pour s'implanter et pouvoir travailler comme on le souhaite. Et la première année du Cavalaire Jazz, j'ai proposé une exposition avec plus de 80 portraits. Et j'avais volontairement mis autant d'hommes que de femmes. Donc la parité était respectée. Chose qu'on m'a fait remarquer plusieurs fois lors de l'exposition, et on m'a dit: oh, mais vous êtes une grande vous êtes une grande féministe. J'ai dit pas du tout, et puis je me suis posé après la question et me dire: oui, c'est vrai que là la parité est respectée dans le hall de l'exposition, mais elle n'est pas sur scène, parce qu'en retrouvant les chiffres, on est à 8% de femmes dans le jazz, musiciennes et vocale, et donc seulement 2% d'instrumentistes. Donc ça fait quand même vraiment mal. Donc mon exposition finalement était engagée, parce que si j'avais mis la parité qu'elle n'est pas sur scène. Et donc de ce constat, j'ai dit: bon, on va sauter le pas et on va faire une exposition que de femmes du jazz et que de compositrices et d'instrumentistes. Sur ce projet, il fallait trouver des partenaires, donc j'ai eu la chance d'avoir une bonne écoute au théâtre de Bourg-en-Bresse et auprès de la Dîme de Lin, qui m'ont aidé à coproduire le projet. Donc c'est pour ça que l'exposition a démarré sur Bourg-en-Bresse à l'espace H2M en mars dernier pour la Journée de la Femme. Et puis l'exposition a fait son chemin, parce que c'est un sujet finalement qui intéresse et qui interpelle. Okay. Et dernièrement, donc vous avez pu la voir, je sais que vous êtes allé à Seno, à l'auditorium Seno, qui est où il y a également une très bonne équipe, et que je salue d'ailleurs.
Un petit coucou à l'équipe de Seno.
Radio Semnoz, partenaire avec nous.
Voilà, parce qu'il y a une programmatrice, Catherine, et c'est très rare dans le milieu de la musique d'avoir une programmatrice, donc une femme. Donc c'est à vraiment saluer. Donc l'exposition, j'ai voulu la construire autour de femmes plutôt du jazz aujourd'hui, celles qu'on peut voir aujourd'hui sur scène. Je rends notamment, là j'ai une petite pensée pour Lavelle qui nous a quittés la semaine dernière. Allez. Et qui m'a bouleversée à chaque concert où j'ai assisté, parce que soit derrière son piano elle a une énergie et puis une vitalité et du cœur, on sentait chez cette femme qu'elle donnait quelque chose d'incroyable sur scène. Avec une spiritualité aussi, et puis à chaque fois une leçon de vie, elle vous faisait vraiment une leçon de vie, parce qu'on sentait bien que derrière cette joie il y avait quand même beaucoup de bleu de l'âme.
C'est souvent ce genre de musicien. Voilà.
Et elle drainait derrière elle soit un cœur de gospel, soit, enfin, on sentait que c'est elle qui irradiait toute cette énergie à tous les chanteurs et à l'orchestre. Donc j'ai vraiment une pensée émue pour elle, parce qu'on a peu parlé. Je sais que l'orchestre de Rhoda Scott va lui rendre hommage à Paris la semaine prochaine. C'est un orchestre que de femmes, hein, un quartet. Si je ne m'abuse, il y a Julie Souris à la batterie, Lisa Cadbéro au sax. Mmh. Après, il y a un autre sax, j'ai perdu le nom. Mmh. Et puis, Rhoda Scott à l'orgue.
Les Wonder Woman.
Voilà, mmh. elles sont quelques-unes arrivées quand même à s'imposer et à penser à rendre hommage à celles qui partent, parce que j'ai vu peu de choses dans la presse.
Que dans la presse spécialisée, quoi.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
Et donc, on note quand même toujours cette particularité que les bleus à l'âme, les bleus au cœur et les bleus tout court, cette sensibilité amène à créer quand même de façon très différente. Oui. Et c'est bien souvent ça qui inspire,
qui inspire
la musique et qui fait parler sa musique, en fait.
Je pense que c'est la mélancolie, la souffrance qui inspire.
Ouais, c'est clair.
La joie de vivre, elle est là, mais elle est éphémère. Et puis, c'est pas celle qui vous fait composer
et comprendre la vie.
Et quand vous faites une telle expo, alors comment faites-vous choisir parmi toutes les photos que vous avez faites? Ça ne doit pas être évident de se dire, j'en choisis 80 parmi toutes celles que j'ai faites. Là, c'est pareil, des expressions, des souvenirs, justement. Là, parce que la photo de la veille, il y en a une magnifique que vous avez faite, effectivement, et qui, je suppose, fera partie de vos expositions à venir.
Alors, la veille, bon, par exemple, on prend le cas de la veille. Donc, je l'ai prise en photo, j'ai des photos superbes, où elle est à son piano, et où je suis en contre-plongée. Où j'ai pu passer derrière la scène à c'était dans le midi, je sais plus, je crois que c'était à Sanary, les nuits étoilées de Sanary, je sais plus exactement le nom du festival. Et là, vraiment, elles sont, bon, je me dis, chouette ces photos, mais il y a quelque chose qui manque, parce qu'on voit pas son regard, et je me dis, là, tu vas te faire plaisir au niveau de la composition de la photo, de l'esthétisme de la photo, mais ça la représente pas, elle.
Okay.
Qu'est-ce que, pour toi, c'est qui la veille, qu'est-ce qu'elle t'a apporté quand tu l'écoutes en concert? Et donc, c'est cette joie de vivre et ces petites leçons de vie qu'elle nous faisait à chaque entre deux morceaux. Et donc, effectivement, le portrait que j'ai choisi dans le cadre de l'exposition Jazz au féminin, c'est une où elle revenait pour un rappel, elle a ses chaussures à la main, elle a ses partitions sous le bras, et elle est face au micro, elle a un petit doigt en l'air, et comme une petite fée clochette, et elle égrène 2-3 bons conseils pour être heureux. Et là, elle a un grand sourire avec ses dents du bonheur. Et je me suis dit, ça, c'est la veille, voilà. Pour moi,
c'est ce qui la représente.
C'est ce qui la représente. Donc, en fait, quand je construis l'exposition, c'est ça. J'ai des dizaines, des centaines de photos. Et parfois, on serait tenté à les retoucher à Photoshop, comme beaucoup de mes collègues très talentueux font et qui sont d'excellents photographes, mais qui retouchent beaucoup. Et pour moi, non, parce qu'une photo, je viens du terrain, de la photo reporter. Donc, on retouche pas, on montre les choses telles qu'on les voit. Et donc, peut-être que pour certains photographes, c'est pas une démarche artistique, mais pour moi, c'est la mienne. Voilà.
Pour moi, l'art de la photo, c'est de savoir prendre au bon moment et dans la bonne pause, j'allais dire entre guillemets, la personne pour sans retouche pouvoir faire ressentir ce qu'on a pu nous-mêmes ressentir en prenant la photo. Sinon, Photoshop, c'est gentil, mais ça vous parle pas, quoi. C'est comme dans notre société, c'est éphémère, c'est tout, tout lissé, tout. On n'a pas envie de gens lissés. Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours pas avoir de rides, d'être maigre?
L'ensemble des photos que vous pouvez voir,
elles sont retouchées.
Elles sont toutes énormément travaillées. Alors bon, là, c'est tout un dilemme. J'ai souvent, d'ailleurs, même avec des collègues avec qui je m'entends bien, cette polémique. mais bon, je suis de la vieille génération, donc je reste bien campée sur mes positions. Et pour moi, la photo, c'est du vivant. Et d'ailleurs, si on me demande ma photographe préférée, c'est Dorothy Lynch, qui a fait des photos après la crise de 1929 aux États-Unis. Et qui sont vraiment des portraits comme ça pris sur le vif et qui qui montre tellement l'âme des gens. Et je crois que la photo, c'est ça. C'est le miroir de l'âme.
Alors, on va faire une autre pause musicale. Alors, on a choisi, alors c'est peut-être pas elle qui a choisi cette fois-ci, Elena Melody, le titre Darling, et puis ensuite, on va la faire réagir sur son propre titre et pourquoi, comment elle écrit. On écoute.
Close and so
C'était donc Elena Melody, le titre Darling. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans votre émission Tout Feu, Tout Femme. Et je suis en compagnie d'Elena, justement, de Christelle et de Valérie. Alors, Elena, on vient de vous écouter.
Oui, on va reprendre un petit peu ensemble, Elena, la découverte du mécanisme de création de vos morceaux. La première chose qui m'interpelle, on vient d'écouter un morceau de votre composition, Darling, qui est très joli, qui est très mélancolique, qui parle beaucoup
la
aussi.
Mélancolie, on en retient.
Oui, bah moi je suis assez réceptive à ce genre de morceau. Cependant, je me pose une question. Pourquoi écrire les textes en anglais? Pourquoi ce choix?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, je suis très, très critique vis-à-vis des textes en français lorsqu'ils sont mal écrits, en fait. Et donc, pour l'instant, je pense que j'avais peut-être pas la maturité d'écrire des textes en français qui sonnent, parce que pour moi, la sonorité est très importante. Donc je pense que j'avais peut-être pas cette maturité que j'ai prise au fur et à mesure de mes lectures aussi ces derniers temps. Du coup, l'anglais, pour moi, me paraissait le bon compromis pour à la fois faire sonner les mots, les faire vibrer, essayer de maintenir les tonalités, et à la fois cacher et dissimuler peut-être des petites bribes de choses que j'avais écrites en français, mais qui, selon moi, ne sonnaient peut-être pas aussi bien qu'en anglais. Enfin, voilà. C'était juste un petit parti pris.
Au vu de ce que vous dites, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, en partant justement d'une source littéraire pour arriver à votre composition, une source littéraire qui semble quand même très riche aussi et quand même aussi d'un certain niveau, voilà, ça m'interpellait parce que je me dis que forcément, quand on vous écoute, les mots ont évidemment un sens, votre écriture doit ne pas être anodine en français, et voilà, je me dis que ce serait bien. Moi, je suis très chanson française, je suis épouvantable pour ça, et je trouve que la langue française est tellement belle, et vous semblez justement avoir quand même une richesse dans vos types de lecture, etc. C'est vraiment dommage, vous devriez essayer.
J'y travaille, c'est vrai que c'est pas évident.
Faut pas avoir peur, parce qu'en fin de compte, il y a tellement de gens qui disent rien dans leurs chansons, vous pouvez vous permettre de dire quelque chose, même si c'est pas parfait, vous croyez pas?
Non, mais bien sûr.
Après, je suis méchante.
Mais pas du tout. Après, c'est vrai que j'ai du mal à pousser la voix quand je chante en français, alors qu'en anglais, je sais pas. Alors, ça, c'est une très bonne question d'ailleurs. Pourquoi en anglais, on peut plus se permettre de pousser la voix? Est-ce que c'est le registre des... puisqu'il y a plus de voyelles ou des choses comme ça.
Vous trouvez qu'on la pousse plus en anglais qu'en français?
Parce que les standards de jazz qui sont en anglais, ils vibrent des fois un peu plus. Du coup, je pense qu'il faut jouer sur un autre registre. Peut-être qu'une certaine forme de musique peut permettre à une chanson d'être en français. Mm-hmm. Et dans ce cas-là... ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup, mon projet pour l'avenir, un avenir plus ou moins proche, ce serait, d'écrire une pièce peut-être plus électroacoustique avec un texte en français, cette fois, inspiré peut-être de... J'ai créé des nouvelles, des choses comme ça, donc peut-être quelque chose d'assez onirique et un peu absurde. Et dans ce cas-là, mettre derrière un fond musical qui laisserait plus de place peut-être aussi au texte et
ça
au français.
Ça peut être une piste.
Oui, ça peut être une piste.
Et ça peut aussi vous ouvrir une voie, je veux dire, parce que c'est un créneau qui n'est pas utilisé non plus. Non. Et les Français aiment le jazz, je pense.
Mais du coup, faut que c'est à travailler parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est pas évident, parce que même les standards de jazz, j'ai pas... Enfin, il y en a en français certainement, mais... Il n'y en a pas qui m'ont marqué à ce point.
Suffisamment. Ouais. Alors, pourquoi ce titre, Darling?
Alors, lui, c'est...
Chanson d'amour.
c'est ça. Mais alors, c'est vrai que quand j'ai mis le titre, je me suis dit... Et c'est vrai que le nom du titre, il est un peu cliché. Mais en fait, c'était juste pour jouer justement sur les pseudos standards de jazz. Et je voulais juste écrire une berceuse. Et je m'étais inspirée pour cela de... un peu d'écrit, déjà de Reverdy, qui, comme je le disais tout à l'heure, me plaît beaucoup, et sur une petite méditation dans une chambre, parce que Reverdy, il avait écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Lucarnoval, où il écrivait dans son grenier, et il regardait le vent, la neige, enfin, il explique tout ce qu'il voyait, au détriment même de ses propres pensées. En fait, il explique juste les éléments qui l'entourent de sa lucarne, Et donc, moi, j'avais écrit ça en m'imaginant, dans une chambre et juste essayer petit à petit de m'effacer et laisser l'atmosphère et l'environnement... prendre sa place et juste moi m'effacer,
Moi, avec ce que vous dites, je peux pas m'empêcher de dire que au vu de votre registre littéraire et de votre façon de parler, je peux pas imaginer que vous êtes pas capable de construire un texte français qui tienne la route. Si on vous revoit ici, on veut vous revoir avec un texte écrit en français.
Je vais y travailler.
Il faut travailler. Moi, je suis garantie que ça doit porter ses fruits. Alors, comment vous faites techniquement pour les composer, ces morceaux?
Je saurais pas vous dire.
D'accord.
C'est ça le terrible, parce que je sais pas écrire la musique. En fait, je sais lire des partitions, mais je sais pas les écrire.
D'accord.
Donc c'est tout,
spontané,
tout en tête.
Intuitif.
Ouais. Et je m'interdis dès que je fais une erreur, je m'interdis de ne pas l'envisager. C'est-à-dire une petite fausse note ou quelque chose comme ça. Je me dis, c'est dans le processus de la création, ça peut signifier quelque chose. Et donc, c'est pour ça aussi peut-être que j'écris pas en français, c'est que je pense pas d'abord les paroles, je pense la musique. Et du coup, c'est plus difficile de caler des paroles en français. Voilà. Mais maintenant, je vais peut-être faire l'inverse en pensant les paroles en français et puis après la musique.
Mais... parce que vous pensez, là, quand vous discutez, vous pensez quand même littéraire en français.
Mais
donc,
mais c'est le l'aspect créatif. L'aspect créatif, il est spontané et intuitif. Et l'intellectualisation vient après. Mmh. C'est-à-dire, après, je me pose la question, pourquoi j'ai composé ça? Comment ça m'est venu? Mais c'est un premier jet, en fait. C'est purement physique, en fait. C'est une, je sais pas, une corporéité de quelque chose. Et je sais pas si en termes intellectuels, je sais pas.
Ouais, je vais arrêter de l'air.
Quelque chose, voilà, de purement instinctif. Et donc après, voilà, voilà.
Et est-ce qu'il y a un fil conducteur dans vos thèmes? Est-ce que vous partez sur une idée que vous continuez à développer de façon linéaire, ou bien est-ce que vous passez d'un sujet à un autre et que...
Alors, je m'étais posé la question récemment parce que je me suis demandé pourquoi j'ai composé toutes ces chansons. Je dois en avoir une quinzaine maintenant. Je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun. C'est que je suis toujours dans un rapport entre le monde intérieur de la méditation, comme on disait tout à l'heure, le repli sur soi, et l'énergie du mouvement et de faire quelque chose. Et du coup, bon, moi, je suis une grande asthmatique, alors c'est pour ça que je joue beaucoup là-dessus aussi au niveau de la voix. Et j'ai remarqué que mes compositions aussi au niveau musical avaient quelque chose de l'ordre de la respiration, à la fois de l'oppression et puis d'un coup du soulagement. Et du coup, c'est ça qui est en commun, je pense. Parce que même si les paroles diffèrent, j'ai notamment une chanson qui parle un peu quelque part féministe, qui parle du conditionnement, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs hors antenne, que du conditionnement finalement de la religion qui peut devenir intégrisme, et qui peut aussi enfermer les femmes dans des carcans,
dans des schémas.
Et notamment Son of the Glory Day que j'avais composé, qui en fait relate l'histoire d'une jeune fille qui, parce qu'elle perd sa virginité hors mariage, se sent obligée de vivre au nom de Dieu et au nom d'une entité comme ça, quitte à s'oublier elle-même, juste par punition et par volonté de se flageller, quoi.
Justement, est-ce que la femme ne s'oublie pas souvent?
Ça, c'est malheureusement un peu trop à mon goût, mais c'est pour ça qu'il faut en parler, et c'est bien, et j'admire votre émission, et c'est trop cool, et il faut vraiment en parler, voilà.
D'ailleurs, à ce propos, on emploie depuis le départ le mot parité, et moi, je me dis toujours, c'est un mot que je trouve vilain, la parité. Pourquoi est-ce qu'on parle pas d'équité?
Mais oui,
parce que
c'est
parité,
ça.
De quoi,
parité,
c'est... Non, c'est l'équité.
Mais oui, totalement,
on s'en fout que ce soit une femme, un homme, en fait. Qu'est-ce qui est important? C'est l'équité sur ce qui, sur sa valeur et sa valeur ajoutée, quoi. Donc
totalement,
c'est...
totalement. Mais c'est le réel problème, et je pense que c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de faut en parler, ouais. Notamment là, c'est pour ça, le 5 mars à Fézin, ça va être intéressant pour ça. Là, avec des amis, je vais faire une émission de radio sur Radio Canu à Lyon, sur justement les femmes dans l'électroacoustique. Alors même si c'est une petite radio libre, et c'est important, faut essayer d'en parler, voilà.
Qui ruisseau font les grandes rivières.
Ah oui, justement, on arrive au terme de cette émission. Alors, on rappelle bien que la journée internationale de la femme et non pas des femmes, c'est le 8 mars, qu'elle a été possible grâce justement à la lutte de beaucoup de femmes. Alors vous êtes toute jeune, 22 ans. Est-ce que déjà à 22 ans, on sent qu'il faut qu'on pousse encore, puisque on vient de générations un petit peu plus anciennes, toutes les trois. On a essayé de se battre pour certains droits qui ont été acquis, mais on sent un retour en arrière sur certaines choses.
Mais en fait, c'est ça qui est malheureux, c'est que on a tendance à croire, oui, tout a été fait, on a eu le droit de vote, tout ça, machin. Mais ces derniers temps, ne serait-ce qu'avec la montée de l'intégrisme, ne serait-ce qu'avec toutes les lois, j'ai vu l'avortement qui n'est pas encore réglé,
qui est presque remis en cause.
Les salaires, on en parle, on dit oui, alors maintenant les salaires sont presque égalisés, mais non, il y a encore des différences. Et le rôle de, quand on est une grande femme professionnelle et qu'on tombe enceinte et d'un coup on se retrouve à la rue parce que voilà, on virait de son travail, mais ça c'est pas des fantasmes,
c'est une réalité.
Et c'est à prendre à la racine.
Ou encore on se fait harceler dans le métro, on se fait pincer les fesses, choses comme ça.
Même dans la rue, même à Bourgoin-Jallieu, ça arrive, je vous le dis.
Puis les femmes agressées.
Les chauffeurs, ça arrive dans le trash barrière aussi.
Voilà, c'est ça. Voilà, il faut se battre.
Alors, quand on a 22 ans, on rêve de quoi?
Ah ben, on, on rêve beaucoup, hein, et le rêve, ça n'aide pas là. Et il faut rêver de tout et de n'importe quoi, parce qu'on peut réaliser ses rêves, et il faut arrêter de penser que ça ne pourra jamais se faire.
Quel joli message de fin. Réalisez vos rêves, mesdames et messieurs.
Eh bien, on vous remercie, Christelle Thibault, photographe, Elena Mélodie, compositrice, autrice. Auteur et interprète. Un album en cours, j'espère. On espère qu'on va vous donner un grand coup de pouce pour que vous réalisiez cet album. On n'oublie pas, le 8 mars, c'est la journée de la femme, internationale de la femme. Et puis, on va se quitter en musique sur un autre de vos titres que vous avez choisi.
Qui est une instrumentale et qui s'appelle Baobab Volubile.
Merci à Valérie pour cette émission.
Merci à vous tous. À très bientôt. Et n'hésitez pas à aller sur les sites internet.
Laurent Fourchon.
Merci Laurent.
C'est notre chouchou Laurent. Vous voyez, les hommes aussi, ils ont leur place ici.
Derrière la vitre.